Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et La Voix de l'Est. Au programme, ménage l'ordinaire. Avertissement, ce trauma-avertissement ne fonctionne pas. Et ce qu'une pauvre toast peut révéler. Bonne écoute.
Ménager l'ordinaire, un texte de José Blanchette, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Ménager est un art, s'enrichir aussi. J'aurais dû suivre les pas de Warren Buffett ou ceux de Jeff Bezos. Mais à l'école secondaire, on nous donnait des cours d'économie familiale plutôt que comment payer moins de 1% d'impôts ou Dow Jones 101. À la place, je sais faire une béchamel sans grumeaux, du lait de soya et réutiliser du pain sec. Ma bagatelle, une façon de passer les restes de gâteau en les imbibant de rhum ou de kirsch, m'est réclamée à chaque Noël par mon bé qui la trouve cochonne. Je l'avais improvisé une année où j'avais raté ma bûche. L'improvisation est la mère de toutes les économies. C'est vrai en cuisine comme en politique. Vu l'inflation galopante à l'épicerie, la plus marquée en 40 ans selon Statistique Canada, j'ai pris la résolution de vider mes armoires, le congélo et le frigo avant de racheter quoi que ce soit sauf du chocolat et de la laitue romaine en solde. Avec mon régime de vie végé, jeûne intermittent, 2 repas légers par jour, je devrais être bonne pour tenir au moins 6 mois, sinon davantage, grâce à mes pots de légumineuses. Nous mangeons trop de toute façon. Je n'ai qu'à regarder la dimension des assiettes du service à vaisselle de ma grand-mère. Comme vous, peut-être, j'ai adopté les chaînes à bas prix, Maxi ou Super C. Le magazine Protégez-vous a fait une enquête l'été dernier pour savoir où faire son épicerie et, avec Walmart, ce sont ces 3 enseignes qui nous offrent le plus pour notre maigre dollar attaqué de toutes parts par le prix du pétrole, les changements climatiques, la pénurie de main-d'œuvre et les tensions géopolitiques. Ukraine comprise. Le sud-ouest américain a connu ses pires sécheresses en 1200 ans, selon le National Integrated Drought Information System, NIDIS, affectant le prix des denrées. Les inondations actuelles en Californie ne renverseront pas cette tendance. Ça ne fait que commencer. Selon des économistes mieux informés que moi, qui sont à Davos cette semaine pour parler de récession au Forum économique mondial. Il faut savoir ménager la chèvre et le chou quand on est bouc émissaire. Pierre Perret. Alors, en attendant que la députée Marwa Rizki, spécialiste en planification fiscale internationale, réussisse à faire casquer les riches dans leurs paradis fiscaux, j'étire la soupe et je déguste mon compost. Mon fils mange bien ses plures de kiwi. Je cultive les arts ménagers comme jadis mes grands-mères recyclaient les vieux tissus en Catalogne. Ma mère reprisait nos bas et nos chandails, coupait nos cheveux, faisait elle-même son potager et ses bouillons. Cet art était surtout transmis de mère en fille. On faisait du neuf avec du vieux, alors qu'aujourd'hui, on fabrique du vieux avec du neuf, l'obsolescence programmée. Revenir en arrière. Mon amie Céline, qui a hésité entre le théâtre et la médecine vétérinaire, réalise des tutoriels rigolos sur Facebook pour nous apprendre à faire notre lessie avec de la cendre de foyer, comme dans Les filles de Caleb, ma série vintage culte, avec Six Feet Under et Sex and the City. J'ai essayé sa lessive très économique, cendre, eau et huiles essentielles. Zéro plastique, zéro déchet et personne n'a vu de différence après le lavage. Je vais pouvoir vendre ma cendre de foyer à la chaudière. Je suis en feu. J'ai de jeunes amis dans la vingtaine qui font leur jardin l'été à la campagne et pétrissent aussi leur pain, font leur choucroute et kimchi et fabriquent leurs assiettes en céramique en prime. Elles ont un cercle de tricoteuses au coin du feu, comme les cercles des fermières, mais plus woke. Je sens un regain d'intérêt pour le fait maison partout autour de moi. Les ateliers et les affûtés en témoignent. On veut de l'âme, peu importe le résultat. Un artisan sommeille au fond de chacun de nous si on creuse un peu dans le terreau fertile de l'imagination et qu'on y cultive l'indulgence. En lisant le livre « Faire plus avec moins », j'ai tout de suite adoré la réflexion de Vicky Payeur, vivreavecmoins.com, qui s'est servi de l'exemple de nos grands-parents et autres aïeuls pour choisir la frugalité et rembourser ses dettes. Quand on fabrique les choses soi-même, qu'on les rafistole ou répare, on prend conscience de leur valeur et elles deviennent précieuses. Il est plus difficile de céder aux modes, au syndrome du voisin gonflable, et là, j'en veux, à la surconsommation et au jetable. Vous écoutez « Ménager l'ordinaire », un texte de José Blanchette paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, vous venez de retarder l'heure, le jour et l'année de l'atteinte de votre liberté. Vicky Payeur, faire plus avec moins. Vicky Payeur s'est intéressée à la Grande Dépression, la période de 1929 à 1939, pour en tirer des leçons. Cuisiner avec rien, réparer, se divertir chez soi, fabriquer soi-même, faire du troc, dépenser uniquement l'argent qu'on a, réutiliser. En 1929, mon grand-père Albin venait d'arriver à Montréal. Il avait 20 ans et, comme beaucoup d'ouvriers, n'avait pas assez d'argent pour prendre le tramway, les petits chars à Saint-Saëns. Il marchait du quartier des Gaspésiens, près de Radio-Canada, jusqu'à l'Université de Montréal, alors en construction. Refaire du lien avec respect. On ne ramassait pas un latté pour emporter en allant au travail en 1930. L'exemple du café revient souvent dans les livres qui nous expliquent comment prendre notre retraite à 40 ans. Un latté à 5 $ tous les matins, investi en bourse, idéalement quelques années avant un crack, vous rapportera 26 300 $ 10 ans plus tard, selon Jean-Sébastien Pilote, un jeune retraité que j'ai déjà interviewé. Sans devenir le pingre de service, il y a moyen de revoir bien des habitudes. Dans son excellent essai « Livre pratique pour en finir avec le gaspillage alimentaire », l'agricultrice en bio-intensif Estelle Richard souligne que le coût de ce gaspillage à la maison est évalué de 1 000 à 1 700 $ par ménage québécois annuellement. Elle explique qu'au fil des décennies, nous sommes passés de mangeurs à consommateurs d'aliments, n'ayant plus de lien direct avec les producteurs. Autrefois, dans ces communautés rurales traditionnelles et tissées serrées, l'agriculture, l'aliment, les cultivateurs et les mangeurs étaient quasi indissociables, la dépendance des uns envers les autres forçant le respect, non seulement à l'égard des compétences de chacun, mais aussi des fruits de son labeur. Respect, le maître mot. L'argent ne pousse pas dans les arbres, mais dans nos poubelles, si. Et à l'ombre des palmiers des paradis fiscaux. Joe Blogg, à votre santé. Les nouvelles recommandations sur la consommation d'alcool du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, rendues publiques le 17 janvier 2023, vous ont rendu morose. Faire une croix sur la SAQ ou la bière à l'épicerie est un virage économique qui peut se négocier en douceur avec les mocktails que j'adopte de plus en plus dans les bars un peu audacieux. Ils n'auront d'ailleurs pas le choix de les offrir et de se montrer plus créatifs que dans une réunion des AA. Le livre « Mocktail » de Maxime Boivin, chroniqueur et mixologue, vous emmènera plus loin que le Virgin Caesar du Dry January. Mon B, très doué pour les cocktails et mocktails, sans alcool, va hériter de ce livre, c'est certain. Je veux goûter à la margarita piquante et au Norito. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout mélanger. Lendemain de veille, impeccable. Santé. Aimé. Le dîner écolo du siècle, sur le site Bon Pote, dont je vous ai déjà parlé. C'est très bien fait, interactif, et les réponses de Jean-Marc, l'écolo de service et l'alter ego du Bon Pote, sont toujours justes. Économiser, c'est aussi cesser de taxer la planète. Le dîner du siècle .bonpote.com. Souris devant le calendrier de l'après de Ricardo sur Instagram. Une foule de trucs quotidiens durant janvier pour économiser en cuisine. Conseil numéro 6. Aller chez maman avec un air piteux pour qu'elle nous donne de la sauce à spag, du pâté chinois, de la soupe. Instagram.com/ricardocuisine. Aussi, le zéro déchet, très tendance et économique, les comptes se multiplient. En voici un parmi des centaines. Instagram.com/the-zero-waste-guide. Relayez la recette de lessive de mon amie Céline. C'est spontané et sans prétention, mais ça ne se mange pas. Adoptez le livre « Dévorer les légumineuses » d'Evelyne Auger, créatrice de « La Fraîche », un web magazine végé. Des recettes de légumineuses en quantité et présentées de façon appétissante et originale. Cela fait 12 ans que je suis convertie au végétarisme, si on peut parler de conversion. Non seulement c'est économique, mais c'est plus imaginatif et aucun remords, ni pour la planète, ni pour les bêtes. Un ouvrage qui ouvre des horizons nombreux pour soutenir le Veganuary. Les bines au four rivalisent avec celles de mon grand-père Alban, et le bacon de tofu est sur ma liste à essayer. C'était « Ménager l'ordinaire », un texte de José Blanchette, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Avertissement. Ce trauma-avertissement ne fonctionne pas. Un texte de Catherine Lalonde, paru le mercredi 11 janvier 2023 dans le quotidien Le Devoir. Les trauma-avertissements se multiplient au même rythme que les études scientifiques qui conclut qu'ils sont inefficaces. Ces avertissements, qui préviennent que le contenu pourrait être délicat, irritant ou déclencheur de réactions perturbantes, prolifèrent maintenant dans le milieu des arts, royaume du bouleversement émotif et du choc esthétique. Musées, classes de littérature, livres, spectacles, opéras préviennent maintenant leurs visiteurs, lecteurs et spectateurs. Regard en une série de textes sur ce phénomène des « trigger warnings » ou TW pour les intimes. C'est une méta-étude des universités Flinders et Harvard qui est sortie l'été dernier et qui n'a fait que peu de bruit. Trop peu? A meta-analysis of the efficacy of trigger warnings, content warnings and content notes, méta-analyse de l'efficacité des traumavertissements, avertissements sur le contenu et notes sur le contenu, résume et croise les résultats de 12 études empiriques sur l'utilisation et l'effet des traumavertissements. La conclusion? Soyez avertis, les traumavertissements ne fonctionnent pas. Lorsque les traumavertissements ont un effet, il est négatif. Il crée alors de l'anxiété chez la personne qui lit l'avertissement quand elle se met soudain à anticiper avec exagération ce qui va suivre. Pourquoi les traumavertissements échouent-ils à faire changer les réactions émotives individuelles? Se demandent les chercheurs Victoria M. E. Birdgland, Peyton G. Jones et Benjamin W. Bellett. Il est possible que la plupart des gens ne soient pas compétents en préparation émotive, par exemple en réévaluation émotive ou en utilisation de stratégies pour affronter la situation. En général, remarquent les auteurs, les traumavertissements préviennent les personnes des réactions pénibles qu'elles pourraient ressentir, mais n'expliquent pas comment réduire ces réactions, lit-on dans l'étude. Pour personnes sensibles seulement? Certains peuvent arguer que les traumavertissements sont plus utiles aux individus qui ont vécu un traumatisme ayant une similitude avec le contenu présenté. Une survivante d'agression sexuelle qui aurait à lire un passage sur une agression sexuelle, par exemple. D'autres avancent que les traumavertissements sont seulement véritablement utiles pour les individus vulnérables, comme ceux qui ont de graves symptômes de stress post-traumatique, par exemple, poursuivent les chercheurs. À ce jour, la littérature laisse entendre que les traumavertissements ne diminuent pas les réponses d'anxiété chez les individus, même quand le contenu est semblable à celui de leur événement traumatique, et qu'ils peuvent augmenter l'anxiété chez ceux qui souffrent de stress post-traumatique. Bien que plusieurs questions nécessitent des recherches plus approfondies, les traumavertissements ne devraient pas être utilisés comme un outil de santé mentale, conclut la méta-analyse. Ces résultats rejoignent ceux d'Anna Khalid et Jeffrey Aaron Snyder, qui, en septembre 2021, s'étaient penchés sur 17 études. The Data is In, Trigger Warnings Don't Work observait les recherches sur les traumavertissements posées dans différentes disciplines, incluant la littérature, la photo et des extraits de films. Tout ou presque peut déclencher. Ces études, Pascal Brion les connaît, et les résultats ne la surprennent pas. Madame Brion est psychologue, spécialiste des traumatismes. À l'UQAM, elle donne, entre autres, le cours sur le traitement post-traumatique. Un cours qui s'est vu attribuer un traumavertissement pour rappeler qu'on allait y parler, de traumatisme, rapporte la spécialiste. Ça peut faire sourciller, mais les étudiants l'ayant demandé, nous l'avons fait, toujours en nous demandant si ça donne quelque chose. Il est vrai, répond la spécialiste, qu'un traumatisme peut revenir hanter une personne et qu'il peut être redéclenché en quelque sorte. Plus médicalement parlant, un des critères du stress post-traumatique, c'est lorsque, face à un stimulus associé à un événement traumatique passé, nous pouvons vivre des flashbacks, visuels, auditifs, sensoriels. Nous pouvons aussi être envahis, au point de vue somatique, par de l'anxiété, des bouffées de panique. Ce symptôme porte le nom, je lis pourtant, de reviviscence. Qu'est-ce qui provoque les reviviscences? Tout ce qui est lié, de près ou de loin, à l'événement traumatique vécu. Si je vois quelqu'un qui me fait penser à l'événement, si je lis, si j'entends des sons, si je vois les mêmes objets, les mêmes couleurs, la même luminosité, ces éléments peuvent réactiver une structure de peur associée au traumatisme et provoquer des flashbacks. Difficile donc, pour ne pas dire impossible, de prédire et d'avertir sur ce qui peut être un trigger, un déclencheur pour une personne souffrant de stress post-traumatique. En tout, 3% des adultes au Québec ont déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, selon l'enquête sur la santé mentale et les événements stressants, ou à décembre 2021 de Statistique Canada. D'après ces chiffres, environ 6% des adultes au Québec répondent aux critères du trouble de stress post-traumatique probable. Attention, restez calme. En psychologie, avertir quelqu'un, lui dire qu'il va peut-être être ébranlé ou qu'il va vivre quelque chose de difficile n'a pas toujours l'effet escompté, précise Pascal Brion. On souhaite ainsi calmer la personne, faire en sorte qu'elle soit plus capable d'affronter ce qui l'attend. Mais souvent, c'est plutôt une augmentation de l'anticipation, une aggravation de l'anxiété et une exacerbation des comportements d'évitement qui survient. En suivant un chemin semé de traumavertissement, est-ce qu'inconsciemment, nous ne laissons pas le traumatisme conserver beaucoup d'emprise, de pouvoir? S'interroge la spécialiste. En psychothérapie, nous cherchons à promulguer plutôt l'inverse. Vous êtes capable de vous exposer, lentement, graduellement, avec douceur. Nous allons les aider à s'exposer, les accompagner. Il s'agit d'une stratégie permettant à la personne de repérer la source de ses craintes, de remettre en question ses inquiétudes, de se rendre compte que ses capacités sont plus grandes que ce qu'elle croyait, qu'elle est plus forte et plus résiliente qu'elle ne l'envisageait, qu'elle peut mieux digérer le traumatisme et ne pas entretenir son emprise sur son quotidien, explique Mme Brion. La psychologue aime bien travailler avec une certaine forme d'inconfort. C'est aussi ce qui développe la résilience individuelle et collective, estime-t-elle. La vie est dure, très dure, aussi éprouvante, cruelle, injuste. Mais nous sommes résilients. Elle suggère de voir l'inconfort un peu comme les médecins peuvent voir les microbes et les virus. Souvent, ils les aiment bien, car ils contribuent à développer un puissant système immunitaire. S'exposer à des opinions complètement différentes, à des faits historiques pas assez révoltants, peut maximiser notre compréhension de tous les pans de notre société, augmenter notre maturité émotionnelle et cognitive et nous motiver à nous impliquer afin que certains traumatismes, individuels ou sociaux, et certaines injustices révoltantes ne se répètent plus jamais, conclut la psychologue. En suivant un chemin semé de traumavertissements, est-ce qu'inconsciemment, nous ne laissons pas le traumatisme conserver beaucoup d'emprise, de pouvoir? Pascal Brion. C'était Avertissement. Ce traumavertissement ne fonctionne pas. Un texte de Catherine Lalonde, paru mercredi le 11 janvier 2023 dans le quotidien Le Devoir.
Ce qu'une pauvre toast peut révéler. Un texte d'opinion de Maxime Sainte-Marie, paru le 13 décembre 2022 dans La Voix de l'Est. Les derniers jours ont mis en lumière le style de gestion de plusieurs cadres du réseau de la santé et des services sociaux. Comme leader syndical, j'aimerais bien vous dire que les histoires de toast au beurre d'arachide, de pointe de pizza et de beignes sont anecdotiques, mais non. Le style de gestion autoritaire et déconnecté dans le réseau est bien réel. Même dans un contexte de main-d'œuvre manquante et de conditions de travail lourdement amochées, plusieurs gestionnaires du réseau de la santé distribuent des mesures disciplinaires exagérées, et ce, en nombre ridicule. Certains CIS et CIUS compte même plusieurs conseillers en relations de travail ayant comme principale fonction de rédiger ces mesures qui sont souvent préformatées et exagérées. Il n'est pas rare de voir des lettres de sanction de 4 pages dans lesquelles il n'y a qu'une seule phrase sur les faits réellement reprochés, bien souvent des vétilles. Le reste du texte est directement tiré des manuels du parfait gestionnaire autoritaire. Les « atteintes graves à vos obligations »,« manquements graves à vos obligations de loyauté envers l'employeur » et autres, en cas de récidive, des mesures plus sévères allant jusqu'au congédiement, reviennent constamment. Le réseau, un employeur de choix, Monsieur Dubé? Les longs processus d'enquête qui accompagnent ces lettres sont non seulement stressants, honteux et démobilisants pour nos membres, mais aussi très onéreux pour les contribuables, sans compter les fois où les dossiers se rendent devant les tribunaux. Tout ça pour une tosse. Nous saluons le rappel à l'ordre lancé par le ministre au PDG d'établissement. Cependant, c'est une culture de gestion qui doit changer immédiatement dans le réseau pour améliorer l'expérience employée. Et comme l'a très bien dit Manon Massé sur les réseaux sociaux, lâchez les travailleuses avec leurs collations et occupez-vous de leurs conditions. Maxime Sainte-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales, CPAS, SCFP, qui représente plus de 30 000 travailleuses et travailleurs dans la santé et les services sociaux au Québec. C'était « Ce qu'une pauvre toast peut révéler », un texte d'opinion de Maxime Sainte-Marie, paru le 13 décembre 2022 dans La Voix de l'Est.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Dominique Desrosiers et Gilbert Lepage à la lecture, Suzanne Beauchamp, Jean-Sébastien Liberté et André Lebeau à la recherche, Nicolas Hartmann à la présentation et au montage.